DW. Pulsation.
Selon la légende, Fela a dû engager 4 batteurs pour le remplacer. Tony Allen, le co-inventeur de l'Afrobeat et batteur de génie, a tiré sa révérence. Nous lui rendons hommage dans cette émission qui s'achèvera sur un coup de projecteur consacré au massacre de Gamburungala, perpétré par Boko Haram il y a de cela 6 ans. Mais nous commençons comme d'habitude par le mot du jour, patrimoine mondial africain. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
C'est aujourd'hui le 5 mai et, comme chaque année, c'est la journée du patrimoine mondial africain. Il s'agit d'un rendez-vous récent dans le calendrier des célébrations puisqu'il a été institué en 2015 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il s'agit pour les populations du monde entier de célébrer le patrimoine culturel et naturel du continent africain. Pourquoi nécessite-t-il une journée spéciale ? Eh bien, l'UNESCO considère le continent comme unique. En effet, en dépit de la présence de grandes richesses sur son sol, 2 aspects font de l'Afrique un cas particulier concernant l'inventaire du patrimoine mondial. Premièrement, l'Afrique est sous-représentée car elle ne constitue que 12% des sites inscrits dans le monde. Deuxièmement, une grande partie des biens et sites africains inscrits au patrimoine mondial, soit 39%, sont en péril, menacés de destruction ou de disparition. Les causes de ce danger sont multiples. Il y a le changement climatique, bien évidemment, mais aussi la croissance économique incontrôlée, le braconnage d'espèces rares ou en forte diminution, et enfin les troubles sociétaux comme l'instabilité politique et les conflits armés. Autant de menaces qui rendent nécessaires des efforts pour protéger et préserver ce patrimoine irremplaçable. La campagne cette année est évidemment placée sous le signe du Covid-19. En raison de la pandémie, 90% des sites du patrimoine mondial sur la planète sont fermés ou partiellement fermés. Et beaucoup d'entre eux se trouvent en Afrique. Pulsation, le magazine Jeunes et Culture sur la DW. La batterie est son instrument de prédilection, son moyen d'expression privilégié, lui qui était plutôt avare de mots. Le musicien nigérian et co-inventeur de l'afrobeat, Tony Allen, est décédé le 30 avril, jeudi dernier. Retour sur quelques étapes de sa carrière.
No agreement today, no agreement tomorrow.
No agreement today.
No agreement today, no agreement tomorrow.
No agreement today, no agreement tomorrow.
No agreement, extrait du dernier album que Tony Allen a enregistré avec son ami Fela Kuti. Dès le milieu des années 1960, les 2 hommes font une tournée aux États-Unis. C'est une époque où la lutte contre la ségrégation raciale fait rage outre-Atlantique. Martin Luther King, Malcolm X, le parti des Black Panthers, les grandes figures et mouvements politiques afro-américains ne manquent pas et influencent les 2 musiciens nigérians. Au-delà de l'aspect politique de cette expérience, Tony Allen en tire également une inspiration musicale déterminante pour la suite de sa carrière. En effet, il est fasciné par le jeu des batteurs de jazz américains, comme par exemple Max Roach ou Art Blakey. Ce dernier, avec son groupe The Jazz Messenger, caresse son instrument tout en retenue dans Money. De retour au Nigeria, Tony Allen et Fela se lancent dans ce qui deviendra un des courants fondamentaux de la musique africaine au XXe siècle. L'afrobeat, avec son groove irrésistible et des textes engagés. Une musique qui allie la tradition du rythme, notamment les rythmes yoruba, à la modernité d'une instrumentation électrique. Fela reconnaîtra que sans Tony, l'afrobeat ne serait pas né. Mais la radicalisation du leader, qui ne vit que pour le combat politique en faveur du panafricanisme et contre la corruption et l'exploitation néocolonialiste, ne plaît pas au batteur, qui de plus a besoin de nouvelles inspirations. Après avoir passé 11 ans à ses côtés et enregistré 39 albums avec Africa 70, Tony Allen quitte en 1979 Fela et l'orchestre qu'il a dirigé pour son ami pendant si longtemps. Après la rupture, Tony Allen s'installe en Europe. D'abord à Londres, où il n'est sollicité que pour des enregistrements commerciaux et trop formatés à son goût. Il n'enregistrera presque plus rien pendant 15 ans, se limitant à des collaborations pour des concerts, car sa maîtrise de la batterie reste très prisée par les groupes de tous horizons. À la fin des années 1990, il refait surface dans les studios en rejoignant des labels de musique électro. On l'entend alors sur des morceaux de dub ou même de hip-hop. C'est l'époque où paraît Home Cooking, un album qu'il signe en artiste solo en 2002. Tony Allen se met à explorer des voies musicales plus expérimentales, sans jamais abandonner sa patte, son phrasé inimitable à la caisse claire et à la cymbale Charleston. Des rythmes syncopés qu'il peut tenir plusieurs dizaines de minutes s'il le faut et qui finissent par inviter à la transe. On ne compte plus les collaborations que le batteur nigérian a réalisées durant sa carrière. Ginger Baker, le légendaire batteur de rock, Damon Albarn, le pape de la pop britannique, Charlotte Gainsbourg, le rappeur Gorillaz, mais aussi des stars de la musique africaine à l'image de la malienne Oumou Sangaré dans Yéré Faga. Tout au long de sa carrière, Tony Allen n'a cessé de porter haut et fort les couleurs de l'afrobeat. Il ne ratait jamais les concerts célébrations en hommage à Fela Kuti, que ce soit à Lagos, Paris, Londres ou ailleurs. Il détestait d'ailleurs que l'on mette dans le même panier l'afrobeat des origines et celui d'aujourd'hui. Même le discours politique de son ancien compagnon d'armes, fustigeant l'injustice sociale en Afrique et le drame de la migration, était redevenu récurrent dans ses prises de parole à la fin de sa vie. Tony Allen, qui vivait en France dans la région parisienne et avait acquis la double nationalité, est décédé brutalement d'une rupture d'anévrisme. Il quitte la scène en laissant un dernier opus, Rejoice, le 13e album de sa carrière en tant que leader. Un disque de jazz enregistré en 2018, juste avant la mort du trompettiste sud-africain Hugh Masekela, et sorti le 20 mars dernier, quelques semaines seulement avant sa propre mort. We've Landed.
Tony Allen. Hugh Masekela.
projecteur.
Outre la journée du patrimoine mondial africain, on célèbre et sensibilise également au sujet de la sage-femme, de l'asthme et de l'hygiène des mains, des thèmes importants en période de crise sanitaire. Mais le 5 mai, c'est aussi le jour où, il y a 6 ans, en 2014, des rebelles islamistes nigérians de Boko Haram pénètrent dans la petite ville de Gamborun-Gala, à l'extrême nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun. Il est environ 13h30 lorsque plusieurs dizaines d'hommes armés avec des véhicules blindés incendient les bâtiments et massacrent la population, notamment le marché ouvert la nuit en raison des fortes chaleurs et le théâtre d'une chasse à l'homme. Les islamistes ouvrent le feu sur la foule et abattent tous ceux qui prennent la fuite. Le massacre dure 12 heures et sera suivi d'une brève occupation de la ville par les extrémistes. Parmi les 3000 habitants, beaucoup ont pu se réfugier au Cameroun, dans la localité de Fotokol. Mais le bilan est lourd. Selon le gouverneur, au moins 336 personnes ont été tuées et 200 bâtiments brûlés. Les forces de l'armée nigériane ont fait défaut au moment de l'attaque. Elles étaient, selon la version officielle, parties à la recherche des lycéennes de Chibok, enlevées seulement 3 semaines avant par Boko Haram. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de votre attention. Si vous souhaitez accéder au podcast, rendez-vous sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programmes sur la DW et à très bientôt. Salut !